Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Faugiel.
19h19 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec l'ancienne patronne du MEDEF. Bonsoir Laurence Parisot.
Bonsoir Marc-Olivier Faugiel.
Avec l'éditorialiste du Figaro, Yvan Youfol. Bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Avec comme tous les lundis, Nicolas Domenach. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Et le chroniqueur économique de RTL, Christian Ménanteau. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Devine qui vient prendre le café cet après-midi, François Hollande. Et tout est déjà prêt, c'est magique. La visite impromptue du président de la République chez Lucette. On en vous a beaucoup parlé ce week-end sur RTL, tout à l'heure avec les enfants. Eh bien, on en débat donc de ce coup de com' raté ou pas d'ailleurs, ce soir dans Refait le Monde. Bonsoir Benoît Gadret.
Bonsoir.
Alors, on en dit quoi sur les réseaux sociaux?
On en dit beaucoup déjà, hein. Ça fait réagir. Avec Lucette, là, comme parents sucette, résume Jean-Claude. À droite, on trouve la mise en scène un peu grosse sur le signe du Figaro. Marguerite écrit que la somptuosité du bouquet sur la table était déjà le premier indice de ce montage pitoyable. Son communicant a fait là une belle bêtise. J'aime bien Lucette, rajoute Gudule. Les énarques qui ont monté ce spectacle n'avaient pas prévu son honnêteté. Normal, c'est une vertu inconnue dans leur monde. Toujours sur le Figaro, Bradito déplore, une comédie sordide et gênante. Ils disent Lucette, on lui retire son nom. On la manipule pour nous servir un instantané d'une France populo-vintage fantasmée. À gauche, on moque ces sarkozistes choqués par la com. Celle de Hollande est bien moins indigne que les fausses caméras au meeting de Sarko, écrit Corso. Et tous ces militants amenés par car et train entier, loués pour faire la claque, payé par qui? On n'a rien oublié, renchérit Éponine, ou les figurants choisis sur leur petite taille, ricane Brigitte. Faux procès, toute personne avertie sait que ces visites présidentielles sont toujours arrangées, écrit Robert. Bah oui, les médias et les Français sont abrutis ou quoi? Qui peut penser que le président aille chez une mamie sans préparation? Soupire Olivier. Imaginez un seul instant que Lucette fasse le café en utilisant un mélange empoisonné, tremble Eurogroupe. Mouais, on va pas tarder à apprendre que c'est Gaspard Ganzer lui-même qui jouait Lucette, soupçonne Bin pour finir.
Ça, c'est un vrai boulot.
Laurence Parisot, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, ou au contraire, les internautes ont raison de s'insurger, et nous avec
Moi, je trouve qu'il faut surtout rendre hommage à Lucette. D'ailleurs, il me semble que c'est Gudule, je crois.
C'est bien ça, vous avez très bien suivi.
Qui finalement le fait, car Lucette, elle est admirable de sincérité, de vérité, de courage, parce qu'elle dit clairement les choses, y compris, elle explique qu'il y a des questions qu'elle voulait poser, qu'on lui a empêché de poser, mais elle les dit face caméra. Et c'est le bon sens de Lucette qui est épatant dans cette affaire. Donc,
bon sens de Lucette, et pour François Hollande, vous appelez ça comment alors?
Moi, je dirais au fond que Lucette nous a dit « le roi est nu ».
Ah, donc en fait, coup de com' totalement raté, donc, hein, Laurence Parisot. Comparé à Nicolas Sarkozy, Yvan Youfol, les internautes le font finalement. La balle au centre, zéro partout.
C'est pas mieux, c'est peut-être même pire en effet, mais ça aurait pu être réussi s'il n'y avait pas eu ce reportage de BFM, parce que en fait, c'est BFM qui a eu la très bonne idée d'aller refaire le parcours et d'aller demander à cette femme, qu'on appelle Lucette, mais qui a un nom, qui s'appelle Lucette Brochet. Moi, je trouve qu'il y a une certaine condescendance à vouloir analyser, l'appeler Lucette pour faire peuple. On voit qu'il y a là aussi une sorte d'artifice de communication. En tout cas, on s'est aperçu en effet que tout ceci était faux. C'était du toc, du chip, du pipeau, que, encore une fois, le président de la République avait un problème avec le réel, parce que la municipalité ait fourni les cafés, les tasses, les chaises, dans le fond, on peut le comprendre. Mais ce qui est le plus amusant, c'est qu'il y a eu un gars de l'Élysée, comme dit cette dame, qui est venu auparavant pour essayer de savoir ce que Lucette dirait au président. Et Lucette avait envie de dire au président, ce qu'elle nous a dit ensuite, c'est-à-dire qu'il ferait bien de s'occuper d'abord des clochards qui crèvent en bas de chez elle avant de s'occuper des immigrés. Or, ceci, l'émissaire, le gars de l'Élysée, comme elle dit, lui a dit non, il ne fallait pas poser cette question-là. Donc, quel est l'intérêt, dans ce cas-là, pour un président de la République, de mimer cette proximité du peuple vis-à-vis du peuple, alors qu'il ne peut pas entendre ce que le peuple a à lui dire? Ce que le peuple avait à lui dire, en l'occurrence, était réflexion de bon sens, me semble-t-il, naturellement, qui est très mal vue par, on comprend bien pourquoi, par les politiques.
Mais auquel François Hollande aurait su répondre.
Mais en plus, auquel il aurait su répondre. Donc on est là toujours dans ce même monde aseptisé, plat, convenu, conventionnel. Et naturellement, c'est désastreux. grâce à BFM, cette politique apparaît désastreuse dans sa fausseté.
Sauf que est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue ? Parce que Nicolas Domenech, quand un président reste enfermé à l'Élysée, on lui reproche de ne pas aller en contact des Français. Donc en même temps, quand on va en contact des Français, il faut bien organiser un minimum les choses, non ?
Et vous imaginez un instant François Hollande aller toquer à la porte de Madame Brochet pour lui dire « Coucou, c'est moi ! Vous me faites un petit café, là, en passant, et puis on va discuter loin des camarades. » Non, attendez, loin des camarades, donc. Attendez, je veux dire, l'exercice, il est quasiment impossible. On l'a vu avec les présidents précédents, avec Sarkozy, c'était rappelé il y a un instant, avec Valéry Giscard d'Estaing.
Ça, c'est le top.
Et même avec François Mitterrand, ça avait été réussi à l'époque, parce que François Mitterrand, on l'a oublié, mais c'était au milieu de paysans, il avait un côté terrien, et puis il n'y avait pas toutes ces caméras, c'était un autre exercice.
C'était une autre époque.
Aussi. Son communicant, un de ses communicants, Gérard Collet, disait très justement, la communication, c'est comme la chirurgie esthétique, quand ça se voit, c'est que c'est raté.
Et oui.
Bon, et ben voilà, ça a été raté, nonobstant ce ratage, moi, je préfère un président qui sort dans la rue, qui, comme on a vu, quitte à être chahuté, qui va voir Madame Brochet, et puis qui, même si on refuse de lui serrer la main comme ce syndicaliste CGT, ne lui dit pas « casse-toi, pauvre con ». Je pense que c'est, au fond, assez courageux, malgré tout, assez costaud
de
faire ça.
Il prend
ses risques. Alors maintenant, je termine. Je termine. Maintenant, est-ce qu'il y a échec, comme le titrait votre quotidien, dans cette entreprise d'hypercommunication de la part de François Hollande ? Oui, du Figaro. Tout dépend du but qui est poursuivi. Si c'est de remonter sa cote de popularité, bien sûr, ça ne marche pas. En attendant, si c'est rester dans le film, ce qu'il veut, ce qu'il ambitionne, eh bien, c'est gagné.
Oui. Bah, juste un mot là-dessus, parce que je crois qu'il faut... Tout ça nous rajeunit beaucoup, quand même, cette affaire. Moi, je me souviens avoir découvert avec stupéfaction trois gars qui ramassaient les poubelles sur les Champs-Élysées et qui avaient été quasi manu militari, ramenés à l'Élysée avec des nappes blanches, avec la vaisselle que l'on soupçonne et que l'on imagine du palais présidentiel. C'était absolument...
C'était quand, ça?
Ça, c'est Giscard d'Estaing. Les débuts de Giscard d'Estaing. Il avait enchaîné. Alors, ça avait quand même fait un sacré barouf à l'époque. Les gars étaient gênés. Ils ne savaient plus comment se positionner. Ils ne savaient plus quoi dire. Vous imaginez l'apparat, l'espèce de monde incroyable dans lequel ils étaient projetés en deux minutes. Donc, on se retrouve toujours dans des séquences inventées par des communicants qui, évidemment, sont toujours sur la crête. Et là, eh bien, Madame Brochet a simplement mangé le morceau, comme on dit. Elle a raconté ce qui s'était passé dans la coulisse, mais c'est avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise, et ça démystifie l'exercice, mais je crois que personne n'est dupe sur ces exercices.
Il faut avoir à l'esprit que François Hollande a quand même une cote de popularité très basse, même s'il y a eu un petit regain, et ceci ne s'explique pas uniquement par une situation économique inquiétante et difficile pour beaucoup de Français, c'est aussi parce qu'il n'est pas rassurant dans son art de gouverner, et il ne donne pas le sentiment d'avoir une maîtrise sur les sujets. Là, dans ce cas particulier, ce qui est quand même tout à fait étrange, c'est de laisser les communicants de l'Élysée organiser les choses d'une manière aussi amateur. Parce que quand on est communicant aujourd'hui, on sait très bien que le fact-checking, c'est l'exercice préféré des rédactions. On sait très bien que le grand plaisir de beaucoup de journalistes, c'est de piéger, c'est de montrer que les choses sont artificielles. Donc, comment ne pas anticiper, d'une certaine façon, le travail qu'a fait BFM ? D'autant plus que vous connaissez, vous aussi, les hommes politiques et le président de la République. Ce qui est paradoxal, c'est que ces grands élus politiques, quand on les affronte directement...
Ils sont bons.
Elle a dit qu'elle était tombée sous le charme, Madame Brochet.
Non, mais il n'a rien à craindre d'un débat avec Madame Brochet.
Donc pourquoi lui interdire ceci ?
Mais franchement,
quand vous avez vu chez Madame Brochet la semaine dernière, François Hollande, vous pensiez qu'il était rentré comme ça ? Vous pensez bien que tout ça avait été préparé, quand même ?
Ça ne me choque pas que ça ait été préparé. On se doute bien que tout ceci est préparé. Ce qui me choque, c'est au préalable d'avoir pu laisser entendre que cette femme n'aurait pas pu dire ce qu'elle avait dit. Et donc, ça me fait penser un peu, et ce Gaspard Hanser m'en fait penser un petit peu à ce qu'était Potemkin pour, pour Catherine de Drusset, qui lui faisait visiter des villages en carton-pâte, ces fameux villages Potemkin. Et là, on retrouve un petit peu cette même manière de faire, ce monde fictif qu'on lui montre, avec des gens qui ont appris leur rôle, mais qui ne représentent pas les Français. S'il veut aller vraiment au cœur de la France profonde, eh bien, qu'il se débarrasse de ces Potemkin.
Qu'ils aillent en préfecture, comme faisait Jacques Chirac quand il allait dormir dans les préfectures, vous en souvenez. En tout cas, François Hollande, ce soir, n'est pas chez Lucette, mais à Pékin. On en débat dans un instant.
RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h32 sur RTL. Donc, on refait le monde ce soir avec Christian Menanto, Nicolas Domenac, Yvan Rioufol et Laurence Parizeau. Ce sera la plus grande conférence diplomatique jamais réunie en France depuis la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 48. 40 000 participants, 195 pays, donc plus l'Union européenne, le sommet sur le climat. Et à 28 jours du coup d'envoi, François Hollande en visite officielle en Chine, donc a annoncé que Pékin et Paris étaient en mesure de parvenir à un accord ambitieux et contraignant. Alors croyez-vous au succès de cette fameuse COP21 sur les réseaux sociaux, Benoît?
On aimerait, mais on doute grandement. À quelques semaines de la COP21, le compte n'y est toujours pas pour le climat, prévient Greenpeace sur Twitter. Normal, c'est les lobbies et les industriels qui décident, soupire Akash. Quand on voit que tous les chiffres sont truqués, les voitures, les rejets, on peut ressortir la calculatrice, se désespère Jean-Michel. Rien que pour organiser cette conf, au Quai d'Orsay, on a bien fait 10 fois le tour du monde en avion. Logique, raille encore François, l'eurodéputé écolo Pascal Canfin trouve quand même des raisons d'espérer dans cet accord France-Chine sur le climat. Un pas décisif pour crédibiliser le respect des 2 degrés, assure-t-il. Jean-Loup aussi veut y croire. Le trajet est long, mais il est sûr. Le processus est bien engagé, bien ficelé. Les engagements seront réalisés et révisés au fil du temps. Restons sereins et confiants, encourage-t-il. De la com, rien que de la com, tacle le patte. Ça pond 3 tonnes de discours sur la COP21 et ça chipote dès qu'il s'agit de passer à la circulation alternée à Paris. En plein pic de pollution, se moque Seb pour finir.
Christian Menanto, cette COP21, on est à 28 jours. Nicolas Hulot, ce week-end, était inquiet.
Oui, il est inquiet parce que lui, son objectif, c'est évidemment de maximiser les résultats. Moi, je crois qu'on peut d'ores et déjà avoir une certitude, c'est qu'il y aura un accord. Alors, et 3 points derrière, c'est que cet accord, il va être contesté sur 3 niveaux, je pense. D'abord par les ONG.
3 points, 3 niveaux. Oh là là, ça, vous allez nous emmener loin, là, Christian. Là.
Non, simplement, les ONG vont le contester. Ils penseront qu'il n'y en aura pas assez. Les pays en voie de développement vont dire, nous, on veut bien jouer le jeu, mais vous ne nous financez pas suffisamment. Nous n'avons pas les compensations ni les moyens financiers d'y répondre. Et puis, je pense que ça va quand même se bien passer in fine, parce qu'aucun des 195 pays dont vous venez de parler ne peut s'afficher comme responsable d'un échec. Je vais vous donner, on parle de la Chine, et le président Hollande y est, juste un chiffre. En 2014, la Chine a enregistré le taux de décarbonisation le plus élevé hors de l'Union européenne, de tous les pays du monde. Moins 6%. Donc, il y a des prises de conscience qui ont lieu. Alors, on peut, comme certains internautes, considérer que ça ne va pas assez vite, mais la prise de conscience me semble être réelle, et je pense qu'il y aura un accord, même s'il est insuffisant et insatisfaisant, mais il y aura un accord, et c'est un vrai premier pas.
Je pense, comme Laurence Christian Menanto, que les choses progressent et que la position de la Chine est évidemment déterminante. Si on additionne ce qu'émet la Chine avec ce qu'émettent les États-Unis d'Amérique, on est déjà dans les 40% de l'émission de l'ensemble du globe. Donc, avoir les États-Unis et la Chine avec l'Europe, l'essentiel est fait. Ceci dit, une négociation, tant qu'on n'est pas au moment de la signature, il peut se passer beaucoup de choses, premièrement. Deuxièmement, l'objectif de la COP21, c'est maximum une augmentation de 2% d'ici la fin du siècle. On peut se mettre d'accord sur le chiffre. Mais après, le contrôle de l'exécution de ce que serait l'accord...
Des 2 degrés.
Alors là... J'ai un grand point d'interrogation, et on sait qu'il y a derrière certains engagements, en réalité beaucoup de cynisme, beaucoup de double jeu, y compris de la part de la Chine.
Bien sûr, de l'Inde en particulier, et d'autres grands
La Chine, Christian Menanto, vous êtes bien placé pour savoir que quand la Chine nous annonce un certain taux de croissance, on a toujours un doute sur la réalité du chiffre.
C'est vraiment bidon.
Et donc on sait bien que quand la Chine annonce une certaine réduction de ses émissions de CO2, on peut aussi avoir un doute sur
ça. Ça a été calculé par des organisations, le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, par des organisations américaines et étrangères, donc... on peut considérer qu'ils ont fait le travail sérieusement. Mais c'est vrai que tant que ça ne va pas être signé avec les fameux protocoles de contrôle et de suivi, on pourra toujours dire que ça reste brinque-ballant. Néanmoins, j'ai vraiment la certitude que pour le coup, il y a une vraie prise de conscience. Et je crois que quand on va à Pékin et qu'on ne voit pas le bout de la rue et que les cadres chinois ne veulent plus élever leurs enfants dans la capitale chinoise, ça interpelle un gouvernement. C'est-à-dire qu'il s'appauvrit lui-même. Il y a une attrition. Mmh. Les gens, les grandes entreprises chinoises ne veulent pas mettre leur siège social à Pékin tellement la ville est polluée. Donc, à un moment le gouvernement en prend conscience et son intérêt à long terme, c'est de réagir.
C'est vrai qu'en Chine, les choses ont beaucoup changé ces dernières années, pour les raisons qui viennent d'être dites. Et aujourd'hui, par exemple, savez-vous qu'en Chine, les ONG ont même le droit de poursuivre les entreprises, ce qui n'était pas du tout possible jusqu'à présent, parce qu'elles polluent. Donc c'est un signe législatif d'un changement majeur en Chine.
Yvan Youfol, chez Lucet, c'était peut-être raté, mais chez le président chinois, c'est réussi aujourd'hui pour François Hollande.
Mais, écoutez, moi, alors, je suis peut-être obsédé par la communication, mais j'ai l'impression qu'on nous donne à voir quand même aussi là une grande comédie planétaire. Une grande comédie planétaire qui va naturellement se régler par des déclarations d'intention, bien sûr, mais vous l'avez dit, les résultats ne seront lisibles qu'à échéance de la fin de ce siècle. Où serons-nous ? Ils ne seront pas là. Ou dans 30 ans, en tout cas. Donc, ça ne coûte
c'est
rien
de
dire...
C'est pas de la faute de
Hollande. Non, c'est pas pas sûr, Nicolas.
C'est pas de la faute de Hollande, en effet, sauf que je ne sais pas si, si ce grand Barnum est bon pour le climat, mais ce que je sais, c'est que c'est bon pour les dirigeants. Et c'est bon pour Hollande, précisément. C'est bon pour Hollande parce que cette réunion se passe très, très, très peu de temps avant les régionales. Et puis c'est bon parce que ça met en scène ce grand ballet de tous les puissants qui sont là pour faire comprendre qu'ils servent à quelque chose. Moi, j'ai un doute, pardon, mais j'ai un doute sur le fait de savoir, d'abord, si c'est bien la priorité. Parce que moi, on nous dit que c'est le réchauffement climatique qui est la priorité. Moi, il me semble que la priorité aujourd'hui, c'est plutôt la surpopulation mondiale. Nous sommes 7 milliards, nous serons 9 milliards. Les fonds de la pollution de la terre, et c'est précisément par ces milliards de consommateurs qui arrivent et dont on applaudit à chaque fois le fait qu'ils soient toujours plus nombreux. Moi, je pense que la réflexion, elle est plutôt là à porter. Et d'autant que je me méfie d'abord de ces grands messes unanimes où on est là en train de prier le soleil, etc. J'y vois un côté sectaire. D'ailleurs, je vois que là, même en France, plus anecdotiquement, le monsieur météo de France 2 a été licencié hier parce qu'il a mis en doute, il n'a pas voulu applaudir exactement à tout ce qui est toutes ces récitations sur le réchauffement climatique. Moi, je n'ai pas de religion là-dessus. Je me méfie des unanimismes. Et donc, je trouve qu'il y a là, en effet, une opération de communication qui profite beaucoup aux puissants, aux dirigeants, mais au bout du compte, dont on ne verra pas les résultats.
J'ai un regret sur la façon dont on exerce la politique. S'il y a un accord, François Hollande va en bénéficier. Très bien, tant mieux pour lui. Si je ne me trompe pas, c'est Nicolas Sarkozy qui s'était battu pour que la COP21, cette année, ait lieu à Paris. Ce qui est dommage, en conclusion de ma remarque, c'est qu'il n'y ait pas finalement une unanimité droite-gauche. On parle de l'avenir de la planète dans ce genre de sujet. C'est ça la grande politique que beaucoup attendent. Ça, c'est tout à fait dommage. Une autre remarque. Vous avez parlé de la démographie. C'est vrai que c'est un sujet, mais qui est d'ailleurs débattu dans ces milieux-là.
C'est un des thèmes.
Tout à fait. C'est un thème tout à fait essentiel. Est-ce qu'on doit avoir un doute? Parce que c'est ça le grand sujet, est-ce qu'on doit avoir un doute sur l'enjeu ? Alors vraiment, moi, je ne crois pas. Moi, je suis très attachée, par exemple, aux questions de biodiversité, que je suis de très près. Quand on voit les risques d'extinction d'animaux qui nous sont quasi familiers, ou les risques d'extinction, j'ai appris
ça,
par exemple...
Ça, c'est la pollution, oui, bien sûr.
Ah, mais c'est pas que la... C'est la pollution, c'est le réchauffement... les excès.
Non, mais j'entends bien ceci, mais quand vous voyez que les écologistes, à cause des écologistes, par exemple, la France ne va pas se mettre à extraire le gaz de schiste, ou qu'à cause des écologistes, les Allemands ont supprimé le nucléaire pour reprendre leur centrale à charbon, je me dis que ces raisonnements sont malgré tout viciés et qu'on est dans une sorte de petite secte qui ne veut voir que ce qu'elle veut voir.
On y revient dans un instant avec Nicolas Demenac.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
Et on reprend notre débat sur cette conférence sur le climat de Paris, donc, qui va se ouvrir à la fin du mois avec Laurence Parisot, Yvan Youfol, Christian Menanto et Nicolas Domenac. Alors Nicolas Domenac, vous y croyez ?
Ah bah, good cop 21, bad cop 21. Moi, je suis résolument good cop, hein, 21. Et d'ailleurs, j'en profite pour rendre grâce aux écologistes ce qu'a oublié de faire Yvan Rioufol tout à l'heure, parce qu'ils ont initié l'alarme et une mobilisation il y a des années et des années. On peut les critiquer sur beaucoup de choses. En attendant, là-dessus, entre autres, ils ont eu tout à fait raison. Et au fond, des grandes messes comme il y a, comme il va y avoir, il ne faut pas les traiter de barnum, Yvan Rioufol. Voyons, c'est les grandes messes, il faut employer d'autres mots. La sacralisation est importante, je croyais, sous votre plume d'ailleurs, avoir lu des choses dans ce sens-là. Nous avons besoin de rituels collectifs et au fond, celui-ci met parfaitement pour avancer et pourquoi je pense que ça va avancer parce que d'abord les opinions sont mobilisées et poussent les États, parce qu'ensuite les progrès technologiques sont exceptionnels et vont exceptionnellement vite et que donc du coup le coût financier est devenu très important, parce qu'enfin les grandes religions, puisqu'on parlait de sacralisation, se sont engagés, le pape en particulier pousse aussi, et donc tout ça fait que effectivement il y aura des blocages, vous avez raison Laurence Parisot, et qu'il faudra surveiller de près les lobbies qui restent et demeurent très puissants, hein, et que donc il faudra être très 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 vigilant, mais là c'est parti. Alors ça va peut-être pas toucher le cœur de cible à Paris dans quelques semaines, mais au moins, je veux dire, le mouvement va aller loin. Ouais, ils sont convaincus, là.
Ah bah là, en tout cas, ils sont tous restés sans voix.
Sur le mot Barnum, je crois que c'est aussi un signal. S'il y a ces Barnum, c'est que ceux qui devraient faire le boulot, qui sont aux Nations Unies, à l'ONU, ou qui se ressemblent et qui, toute l'année, travaillent sur ce type de dossier, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et on est donc obligé de passer au stade supérieur, c'est-à-dire organiser ces grandes manifestations.
Je sais pas, mais j'ai l'impression que l'opinion n'est pas dupe de tout ça. D'abord, je ne vois pas beaucoup les gens en parler.
Attendez, on est à un mois.
Ça intéresse le milieu politique, le milieu médiatique, mais je n'entends jamais autour de moi que l'on parle de la COP21 et de dire que ça va marcher. Comme le dit Dominique, les gens s'en foutent complètement et j'ai l'impression qu'il y a même un grand doute sur leur efficacité. Je pense que les gens ne sont pas dupes de ce grand théâtre-là, mais enfin bon, je peux me tromper, mais je crois que
le théâtre, vous laissez
abuser par ce monde que vous côtoyez, qui n'est pas celui des Français.
C'est ça le problème.
C'est aussi les miens.
Écoutez Laurence Parisot, une seconde.
Non, mais Yvan, c'est pas un sujet français. L'opinion publique française, comme l'opinion publique européenne et même comme l'opinion publique mondiale, a pris conscience depuis quelques années. L'un des marqueurs ayant été le film de Al Gore, qui a fait que tout le monde a acté clairement le problème, même si je peux partager aussi le fait que, grâce aux écologistes, ce sont bien eux qui ont tiré la sonnette d'alarme. Moi, je pense à René Dumont, candidat à l'élection présidentielle en 1974. L'opinion publique est très sensibilisée. Elle ne sait pas ce qu'est la COP21 et je trouve que nous devrions justement leur expliquer. La COP21, c'est une négociation d'État à État mondiale. Je sais, vous l'avez dit, mais c'est exceptionnel. Moi, je ne savais pas ce que vous aviez souligné tout à l'heure. C'est la première fois depuis 1948 en France qu'il y a ainsi un traité aussi important qui est négocié.
C'est une très bonne chose que des États veuillent réduire leur pollution. C'est une très bonne chose, mais n'attendons pas des choses extraordinaires de ce sommet-là.
Allez, dernier sujet, ne payez pas vos impôts. Plus, c'est fini, on en débat dans un
instant. Ça, c'est une idée, ça.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde, Marc-Olivier Fauchel.
19h50 sur RTL, on refait le monde avec Laurence Parisot, Yvan Rioufol, Nicolas Domenac et Christian Menanteau. Du jamais vu dans l'histoire de la fiscalité, le gouvernement qui s'adresse aux 250 000 retraités modestes qui, pour la première fois cette année, vont devoir payer la taxe d'habitation. Ne payez pas la taxe, c'est une erreur, c'est la faute à la suppression de la demi-part des veufs et veuves votée en 2008 par la droite. On va reprendre tout ça et on va vous arranger le coup. Sur les réseaux sociaux, on en dit quoi, Benoît Galeret ?
Je pensais qu'une telle nouvelle serait forcément bien reçue, bien même pas. C'est la politique des queues de cerise, je prends la cerise et je te rends la queue, grince Amenita. Tant d'amateurisme au plus haut de l'État français, ça devient vraiment insupportable. Assez, lance Ramsa. Une telle promesse n'engage que bien peu la parole de Manuel Valls. Si elle n'est pas tenue, il pourra toujours rejeter la faute sur Bercy, prévient Jules. D'ailleurs, sur Figaro Vox, l'économiste Jean-Yves Archer relève trois problèmes. 1. Contrairement à un paquet de café ou de pâtes, l'impôt ne relève pas de la règle satisfait ou remboursé. Rien ne se fera sur un mode automatique, dit-il. 2. Contrairement à l'affirmation de Valls, rien n'est tranché, c'est au Parlement de décider. 3. Il pourrait bien se poser une question de constitutionnalité et de rupture d'égalité devant l'impôt. C'est l'UMP qui a essayé d'entuber les gens discrètement. Ils se sont fait gauler, défend tout de même Alec. Bah ouais, mais le gouvernement aurait pu le faire avant, pas juste avant les élections, répond Bobo. J'attends encore un peu avant de payer mes impôts locaux. Des fois que ce gouvernement foutraque est décidé de les supprimer complètement, conclut Panoui.
Nicolas Domenech, finalement, un gouvernement à l'écoute donc des Français les plus modestes qui se sont plaints auprès de leurs députés et ils ont vu le problème.
C'est ça. Le truc.
Et vous voulez pas nous répéter encore une fois ne payez pas vos impôts, c'est tellement délicieux à entendre Marc-Olivier Fouchel que vraiment...
Ça s'adresse à 250 000 mais retraités modestes.
On va peut-être généraliser. Non, écoutez, moi je pensais quand même à François Hollande candidat qui nous disait qu'il voulait des impôts plus justes, plus efficaces et plus simples. Hein.
Plus simple. Surtout plus simples.
Surtout plus simples. Je pense qu'on a la démonstration depuis des semaines et des semaines que pour ne pas avoir fait de réforme fiscale, eh bien le système est devenu fou et qu'il surprend même les meilleurs connaisseurs au fond, parce qu'il y en a à l'Assemblée nationale, hein, des connaisseurs formidables, mais ils n'ont pas vu venir le coup et d'autres à droite ne l'auraient pas vu venir. D'ailleurs, ils l'ont initié, les gens de droite. Donc c'est que cette machine-là est devenue folle. Voilà, il faut y mettre fin.
Et pourtant, à Bercy, il n'y a pas que des politiques, il y a aussi des... il y a l'administration.
Mais l'administration de Bercy, qui est, paraît-il, remplie de gens extrêmement compétents, et certainement, mais elle ne s'y retrouve plus. Et quand on discute en privé avec eux, certains l'avouent, ils disent, on a voté tellement de lois, tellement d'amendements aux fiscaux, tellement de contributions diverses et variées, avec des allées et des retours, que le système est ingérable. On arrive au bout du bout, on est au bout du tunnel, je crois, de cette gestion de l'impôt en France. Plus personne n'y comprend rien. Les politiques, bien sûr, mais à Bercy, et quand vous dites 250 000, je ne suis pas sûr. À Bercy, on n'est absolument pas sûr que ce soit le bon chiffre. C'est un chiffre politique, c'est un chiffre d'annonce, mais il n'est pas encore vraiment tamponné, celui-là.
En tout cas, vous décrivez l'un et l'autre un casse-tête fiscal. Et face à ce casse-tête fiscal, Laurence Parisot, est-ce que le gouvernement a raison de prendre des décisions? Enfin, ce type de décision, je veux dire.
Cette affaire est tout à fait désolante parce qu'elle montre à quel point, aujourd'hui, en France, nous sommes gouvernés d'une manière totalement imprévisible et imprévoyante, les deux à la fois. Et quand je dis aujourd'hui nous sommes gouvernés comme ça, je ne parle pas de ce gouvernement en particulier. Cela fait plusieurs années que nous n'arrivons plus à gérer les affaires du pays d'une manière rigoureuse, avec une capacité d'anticipation et une vision de moyen terme. Parce que notamment, il y a une opposition entre une approche toujours très court-termiste des élus d'un côté et puis des administrations qui sont peuplées de gens évidemment compétents mais qui reçoivent ordre et contre-ordre. Et ce que disait Christian Ménantot est très juste, j'ai toutes les semaines des témoignages de directeurs de services qui me disent, pas simplement sur des questions de fiscalité, par exemple en matière de stratégie industrielle, on voudrait que l'État d'abord se mettre d'accord avec lui-même, parce qu'il y a souvent tel ministère ou tel homme ou femme politique en opposition avec tel ou ministre, et du coup on ne tranche pas. On voudrait un cap clair. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui, et cette affaire est franchement très triste, hein, pas très digne d'un grand pays comme le nôtre.
Mais en tout cas, c'est une décision politique marquante que le gouvernement a raison de prendre, Yvan Youfol, au vu de cette situation et de ce complexe fiscal. Cette complexité fiscale.
Il a raison de la prendre, je ne crois pas, enfin pas de cette manière, parce que ce que cela révèle, de mon point de vue, c'est une panique générale au cœur même du gouvernement. Le gouvernement se rend compte qu'il n'arrive plus à maîtriser le monstre fiscal qu'il a participé à créer. Il n'était pas le seul.
Il n'est pas le seul. Hein, ça fait 25 ans qu'on est là-dessus.
Il a mis beaucoup du sien aussi. Oui. Et donc, cette bête immonde, maintenant, bouffe ses propres enfants. Et il y a une panique visible et qui, même, d'emblée, il est tout à fait abusive, si l'on entend ce qu'a dit le secrétaire d'État au budget, qui hier matin, donc ces Français qui se sentent lésés à ne pas payer leurs impôts. Oui. Donc il ouvre une brèche, naturellement, pour tous les Français, et moi le premier, qui se sentent lésés à payer trop d'impôts. Et moi, j'appelle tous les Français qui se sentent injustement imposés à ne plus payer leurs impôts. Mais cela veut dire deux choses. Cela veut dire d'abord qu'il refuse d'appliquer la loi votée par le Parlement. Il refuse l'application de la loi. Et il refuse, naturellement, naturellement l'impératif qui est de se plier à nos feuilles de trésor public.
Parce qu'ils vont, ils travaillent pour de façon réarranger les choses. Oui, non, mais je préfère le préciser.
Non, mais tout le monde, a bien compris ça. Mais la panique est telle aujourd'hui que le gouvernement est en train d'ouvrir une sorte de jurisprudence, si je puis dire, qui peut permettre maintenant à tout le monde de dire, mais dans le fond, je ne paye plus mes impôts. Et vraiment, ça risque d'attiser cette révolte fiscale qui est à deux doigts, qui n'est pas encore pour l'instant très structurée, mais qu'il est à deux doigts d'éclater.
Vous craignez, Laurence Parisot, que ce message soit mal perçu par d'autres contribuables qui en profiteraient pour se dire, ah ben c'est le message du gouvernement ?
Mais vous savez, j'ai déjà attiré l'attention, y compris sur ces antennes de RTL, sur les difficultés incroyables que traversent, par exemple, les chefs d'entreprise de très petites entreprises. Ce sont souvent des personnes qui sont au bord de l'effondrement et qui sont régulièrement tentées par des grèves d'impôts. Donc, c'est pas quelque chose avec lequel on peut improviser.
On risque, et je voudrais abonder sur ce que vient de dire Laurence, on risque de retrouver, par exemple, les révoltés du RSI, qui ont manifesté, défilé, et qui eux-mêmes vont se sentir là complètement dégagés de ce genre d'affaires-là. Et politiquement, ça va faire.
Les révolutions partent toujours sur des injustices fiscales. À 89, c'était ça aussi.
Et puis, il y a juste un petit problème technique, n'est pas mince. Ces personnes ne vont pas payer l'impôt, il faut que d'urgence le Parlement vote une recette pour compenser. Sinon, ce ne serait pas conforme à la Constitution.
Merci à tous les quatre, Laurence Parisot, Yvan Youfol, Nicolas Nomenac et Christian Menanteau. Dans un instant, le flash de 20h avec Julien Cellier.